C'est la fougue de la jeunesse dans la cadence qui conclut le premier mouvement du concerto pour trompette et orchestre de Joseph Haydn. Sergei Nakaryakov était accompagné de l'orchestre de chambre de Lausanne sous la direction de Jesús López Cobos en 1993. Alors bon, Sergei Nakaryakov, il a beau parler aussi bien français que vous et moi, il est quand même russe. Figurez-vous qu'on va écouter de l'opéra russe dans un instant. Vous vous rendez compte quand même de la finesse de cette programmation au second degré qu'on vous sert là? Alors je peux vous dire qu'à France Musique, ils peuvent aller se rhabiller fissa. Oui, nous allons passer à l'opéra maintenant, c'est cela, avec une œuvre très fouillée de Dmitri Shostakovitch, Le Nez, d'après la nouvelle de Gogol, on passe à l'acte.
Eh bien, pour rester dans le ton d'une émission dominée par la culture et le classicisme, nous vous présentons en italo-germano-franglais le duo d'amour du troisième acte du Barbier de Die Fledermaus, de Giuseppe Wagner ou de Sheila Verdi. Enfin, de toute façon, c'est n'importe quoi.
Bazar, passage à l'acte.
Nous avons vu comment Ivan Yakovlevitch, barbier de son état, a trouvé le nez d'un de ses clients dans une miche de pain pendant le petit-déj. Nous avons constaté sa surprise et l'avons vu se faire engueuler par son épouse, Praskovia Ossipovna, qu'il a d'ailleurs sommé de se débarrasser de la chose. Il finit par jeter l'objet dans la Neva, mais un policier l'aperçoit et l'interpelle. Yakovlevitch tente bien de le corrompre encore plus qu'il ne l'est. Il lui dit « Bon, je te rase gratos deux fois par semaine si tu veux. » Il dit « Non, c'est bon, je me rase déjà trois fois. » Seulement, on ne connaît pas la suite de cette partie de l'aventure qui sombre dans les tréfonds du brouillard de la littérature. Nous avons ensuite assisté au réveil assez bruyant de l'assesseur de collège Kovalev, qui a constaté qu'il avait perdu son nez. Branle-bas de combat, grande inquiétude, il s'habille et fonce trouver la police. Première chose à faire quand on perd une partie de son corps, police. C'est une drôle d'histoire que celle qui nous est contée par Gogol. Comme avec toute bonne histoire, on peut y lire ce qu'on veut. L'exégèse lui fait dire tout et son contraire. On peut se contenter de la saveur de la nouvelle dans sa dimension anecdotique. On peut comprendre cette perte de nez comme la métaphore de la stérilité artistique, la peur panique de perdre l'inspiration ou de produire une œuvre stérile. On peut y voir un tableau de mœurs de la Russie des années 1830, satire de sa bureaucratie, ou encore, par synecdoque, comparer la perte du nez à la perte de virilité d'un homme, puisque l'on suppose Gogol impuissant. Sur ces considérations, revenons à l'intrigue. Après la découverte de la disparition du nez de Kovalev, l'opéra suit la première version de la nouvelle, à savoir celle qui a subi la censure de Nicolas Ier, parce qu'une scène se déroulait dans la cathédrale de Kazan. C'est là que ça devient aussi absurde que marrant. Imaginez-vous, dans la semi-pénombre, c'est jamais tout à fait la pénombre, on va dire la semi-pénombre de la cathédrale de Kazan, quelques personnes prient. Alors, une nuit, la seule... entre alors le nez vêtu d'un uniforme de conseiller d'État. C'est un peu comme Valérie Ditli au château à Lausanne avec sa paire de lunettes noires. Bon, le nez se met à prier avec ferveur, lui aussi. Kovalev, l'assesseur de collège qui a perdu son pif, franchit à son tour le seuil de la maison de Dieu, son absence de tarin dissimulée par un mouchoir. Sidéré par la présence de son appendice en ces lieux sacrés, parce qu'il y a quand même le nez qui est en costume militaire, il tout saute pour attirer son attention et finit par l'aborder. Un échange littéralement ubuesque. « Dites-moi, c'est quand même étrange. » Il lui dit, vous trouvez à votre place ?» Alors le nez lui répond, ben oui, je me trouve tout à fait à ma place. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?»« Non, ben, c'est-à-dire que je connais du monde, moi, monsieur. Je peux pas me balader sans mon nez. Or, il se trouve que vous êtes mon nez. » Le nez, il tombe des nues. « Enfin, vous déconnez, cher ami, j'existe par moi-même, voyez bien. Je vous connais pas, en plus, cher monsieur. » Distrait par des fidèles, Kovalev perd la trace de son sifflet à tabac.
Thank you.
On passe à l'acte dans Bazar, dans cet opéra au langage plutôt contemporain et hautement caustique, le nez de Chostakovitch. Alors là, c'était le nez qui répondait à Kovalev. Il dit non, je suis une personne à part entière. Et puis, tout à coup, Kovalev qui se rend compte que son nez s'est barré. Après avoir retrouvé, puis perdu ce nez dans la cathédrale, Kovalev tente d'aller trouver la police. Seulement, comme d'habitude, les poulets baillent aux corneilles et pas les pouillets ballent aux corneilles. Il se met alors en tête d'aller publier une petite annonce dans un journal. Il se dit, si les policiers ne peuvent pas m'aider, je vais aller vers la presse. Il arrive à la rédaction. Toc-toc, à qui faut-il s'adresser pour... Et on lui dit tout de suite, minute monsieur, il y a du monde. Voilà, on se croirait un peu à la cour des miracles. Ça grouille, ça discute, ça calcule. Enfin, une scène dantesque. Kovalev finit par annoncer, j'aimerais retrouver mon nez. Alors le type qui fait les annonces, il dit « Comment ça, Monet ? C'est qui Monet, votre jardinier ?»« Non, il répond mon nez, mon pif, ma truffe, ma patate. » Alors l'employé, il lui répond « Je comprends pas tout à fait. Vous avez perdu votre nez ? Est-ce que vous ne serez pas en train de vous foutre de moi ? C'est pas sérieux, ça. Je peux pas faire imprimer ça. On va nous prendre pour des guignols. On est un journal sérieux, vous comprenez ? Déjà que la presse, bon, ça tire un peu là. Hein. Alors si en plus on commence à publier des bons, hein. » Kovalev fait tomber le mouchoir qui dissimule son absence de nez et offre à la vue de l'employé cette surface lisse et plate qui s'étend entre sa bouche et ses yeux. La preuve. Le type fait un saut de cabri, il n'a jamais vu ça, vous non plus, moi non plus, et pour le consoler, il lui offre une prise de tabac que Kovalev ne peut naturellement pas sniffer.
Очень хорошенькая, вы посудите сами, как же мне теперь? Мне теперь к ним нельзя явиться.
La complainte de Kovalev, qui vient faire publier une petite annonce dans un journal pour retrouver son nez. Kovalev était ici campé par Vladislav Soulimski, excusez-moi. Il était accompagné de l'orchestre du théâtre de Mariinsky, placé sous la direction de Valery Gergiev. Cette séquence opéra est à écouter tous les soirs à 18h dans Bazar. Bazar sur RTS Espace 2, c'est aussi sur l'application Play RTS. Bonsoir à vous.
Bazar.
C'était le troisième mouvement du concerto pour violoncelle et orchestre en do mineur de Giovanni Benedetto Plati, interprété par Sol Gabetta et la Cappella Gabetta, dirigée par Andrés Gabetta, bien entendu. Quelques mots peut-être sur Giovanni Benedetto Plati, n'est-ce pas ? Sa date de naissance et son lieu d'origine restent flous. En revanche, l'on sait qu'il serait mort à Würzburg le 11 janvier 1763. Et pourtant, une lettre de Domenico Palafutti du 7 octobre 1764 infirmerait également cette donnée-là. Dans tous les cas, ce musicien italien ne pourrait être né après 1692. Plati a fait partie des sonadori du début des années 1710. C'est un musicien qui a été instruit par Francesco Gasparini, Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Lotti, Alessandro e Benedetto Marcello. D'après ce même Palafutti, qui réfuti sa date de mort, il aurait voyagé à Sienne avant 1722 et rencontré une invention assez spectaculaire d'un certain Cristofori, le cembalo à martelletti, donc le clavecin avec des petits marteaux. Le clavecin, vous savez, c'est un instrument à cordes pincées. Donc un clavecin avec des petits marteaux, c'est déjà une forme de piano. Mais nous n'avons pas les preuves pour appuyer ce que nous disons. Cette rencontre-là pourrait justifier, d'un certain point de vue, l'harmonie, le style et la technique de quelques-unes de ces sonates pour clavecin. Voilà pour ce qui concerne Giovanni Blaplatti. Nous allons passer à du Mozart maintenant avec un moment suspendu, concertant entre flûte, harpe et orchestre. Et je vous rappelle que sur les à peu près de 18h30, nous allons passer au concours de Bazar. L'Andantino du concerto pour flûte, harpe et orchestre en do majeur de Wolfgang Amadeus Mozart, à la flûte Philippe Bernhold, à la harpe Emmanuel Cesson. Ils étaient accompagnés de l'orchestre de chambre de Paris. Juste derrière cette musique d'Avishai Cohen, le contrebassiste, nous allons enfin passer au concours de Bazar.
Thank you.
le contrebassiste Avishai Cohen en trio sur ce titre « Remembering » qui constitue un élément de la bande originale du film « Le sens de la fête » réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. 18h30 tout pile, c'est le moment interactif de cette émission. Pour jouer avec nous aux mots interdits, vous notez l'adresse mail de Bazar, bazar@rts.ch, Bazar. Le principe du jeu est le suivant, un extrait d'une une archive radiophonique diffusée aujourd'hui, il y a X années, sur les ondes de la radio-télévision suisse. Certains mots sont censurés et vous allez devoir les retrouver pour être en mesure de répondre à la question. Si vous voyez juste, vous repartirez peut-être avec une récompense.
Ladies and gentlemen.
Mikai. Mikai.
Are you ready?
Oh yeah!
One, two, three, four. Let's start the quiz.
Nous entendons donc un extrait d'un document radiophonique diffusé sur les ondes de la RTS aujourd'hui, il y a 29 ans. Le père Deleuze, à la tête d'une mission outre-Valais, disait une messe en latin, puis s'exprimait au micro de Patrick Chaboudet. Certains mots sont censurés, à vous de les retrouver. On écoute cet extrait.
Père Deleuze, vous venez de terminer la messe de... Une messe que vous avez dite, bien sûr, en... Qu'est-ce que vous avez dit à votre assemblée ce matin?
Aujourd'hui, nous fêtions ce dimanche la fête de l'Ascension du Seigneur. Alors, un des points principaux du sermon, c'était les ouvertures vers l'au-delà, vers un monde merveilleux que l'ascension nous donne, tout en nous permettant également de garder bien les pieds sur terre.
Est-ce que vous adaptez vos sermons aux personnes qui viennent dans l'église? Est-ce que finalement les sermons que vous faites dans cette paroisse de les mêmes que ceux que vous tiendrez à Martigny, par exemple?
Non, alors ça, je dois vous dire que je n'arrive jamais à écrire ou faire le sermon très précis à l'avance. Et si je ne m'imagine pas des personnes en face, parce que le sermon, la première chose, c'est pour que les gens comprennent, c'est pour eux, c'est pas pour moi.
Je suis assez d'accord avec le père Deleuze. Je suis un petit peu comme lui ici, il n'y a personne en face, c'est très compliqué de faire un sermon ou une homélie. Hein. Alors, après tout ça, à votre avis, dans quel pays se situe cette mission des chanoines du grand Saint-Bernard dont fait partie le père Deleuze? Vous envoyez votre proposition de réponse à bazar@rts.ch, B-A-Z-A-R. Si vous trouvez encore le nom de la paroisse, alors là, vous êtes très très fort. Réponse dans 8 minutes 33 secondes. Karl Michael Zierer, un des rois de la valse viennoise, avec Sei brav. Michael Dietrich à la direction de l'orchestre symphonique Razumovski. Nous allons passer à la réponse au concours de tout à l'heure. Nous avons entendu une archive radiophonique avec le père Deleuze à la tête d'une mission quelque part dans le monde qui sortait d'une messe et qui s'exprimait au micro de Patrick Chaboudet. Et puis la question était de savoir dans quel pays se situe cette mission des chanoines du Grand Saint-Bernard à laquelle appartient toujours le père Deleuze. Nous avons eu différentes propositions intéressantes sur l'adresse mail de l'émission. Il y a eu notamment cette proposition de Vincent qui nous proposait Saint-Ouen. Mais pas Saint-Ouen à côté de Gimel, Saint-Ouen dans le Val d'Aoste. C'était pas mal, mais c'est plus exotique que ça. Je vous propose qu'on écoute la réponse.
Père Deleuze, vous venez de terminer la messe de Siulin, une messe que vous avez dite, bien sûr, en mandarin.
Il l'a dit en mandarin, cette messe, et pour cause, c'est à Taïwan, qu'est toujours cette mission, et plus particulièrement à Siulin. Siulin à Taïwan. Bon, alors on a quand même eu une bonne réponse. Je ne sais pas par quel moyen, mais bon, c'est arrivé. Charles à Collet-Bossy qui avait trouvé Taïwan. C'était finalement, c'était bien joué de sa part. Et cher Charles, vous avez remporté ce roman de Bénédicte Bellepoix paru chez Gallimard en 2021. Saint-Jacques, ce sera peut-être votre Saint-Jacques à vous, qui sait, ou aussi délicieux. Merci à toutes les personnes qui nous ont écrit pour participer à ce jeu. La prochaine tentative, demain. Thank you. Le premier mouvement de la deuxième sonate pour violoncelle et piano en fa majeur de Johannes Brahms, Daniel Müllerschott au violoncelle, accompagné de Francesco Piemontesi au piano. Bazar vous prend par le bout de l'oreille et vous emmène d'ici à là-bas. Issa, c'est le titre de cette chanson de Fatoumata Diawara, la chanteuse malienne qui était ici sur cet album Fatou, paru en 2011. Bazar revient dans des sphères classiques avec un petit peu de quatuor à cordes, on n'en a pas encore écouté ce soir. Eh bien, en voici du Schubertien. Thank you.